Un grand bonjour à vous tous, chers amis auditeurs. Au cours des deux dernières semaines, nous avons examiné la question du caractère. Le caractère de Dieu est parfait. Voilà pourquoi l'homme, afin de tendre ses efforts vers la perfection, doit se soumettre aux ordres de Dieu, à ses commandements, à ses statuts et à ses lois. Nous avons vu que les anges ont été créés. Dieu leur a fait connaître son caractère pour qu'ils pensent et agissent comme lui. Cependant, ils devaient décider de poursuivre dans cette voie, dans cette manière de vivre divine, telle qu'elle leur avait été enseignée. Plus tard, Dieu demanda à Abraham de devenir parfait, autrement dit, de tendre ses efforts vers la perfection, tout comme le Christ le demanda aussi à ses disciples. Abraham se soumit à Dieu, et l'apôtre Jacques écrit qu'il fut appelé ami de Dieu. Aujourd'hui, nous allons faire un bond avant de 4 siècles pour retrouver les descendants d'Abraham en Égypte. Dieu les délivre de l'oppresseur égyptien, de l'esclavage. Cette délivrance est accompagnée de nombreux miracles pour aider le peuple à redécouvrir l'Éternel. Après cette délivrance et la traversée de la mer Rouge, le peuple atteint le pied du Sinaï où Dieu leur propose une alliance. Bien que mortels, ils peuvent devenir un peuple spécial, un peuple à part. Dieu veut leur donner un pays où demeurer. Il les protégera de leurs ennemis. Il les instituera non seulement comme une nation, mais aussi comme église. Et cela n'existe chez aucune autre nation. Ce peuple allait former l'église de l'Ancien Testament, comme cela est indiqué dans le livre des Actes, où il est écrit au sujet de Moïse, « C'est lui qui, lors de l'assemblée au désert », et le mot « assemblée » est traduit du grec « ecclésia » qui signifie aussi « une congrégation religieuse ». Dieu n'avait pas promis la vie éternelle à ses anciens Israélites, mais plutôt une vie heureuse et abondante dans un pays où coule le lait et le miel. Les enfants d'Israël avaient accepté la proposition et reçurent les 10 commandements qui définissent le caractère de Dieu et expliquent les relations que l'homme doit avoir avec Dieu et avec son prochain. Ensuite, Dieu leur demanda de lui construire une demeure temporaire. La famille d'Aaron fut chargée de le servir dans cette résidence qui était le tabernacle et qui plus tard deviendra le temple. Beaucoup d'autres lois furent données, des lois qui déterminaient ce que doit être la conduite humaine. Cette nation physique savait que Dieu résidait au milieu d'elle, dans une demeure temporaire, où le peuple pouvait venir offrir des sacrifices d'animaux, dont le sang symbolisait le sang de celui qui viendrait le répandre pour la rémission des péchés. Il faut noter que Dieu a révélé sa vérité, c'est-à-dire son identité et sa voix, à cette assemblée, à cette congrégation dans le désert, et qu'il ne l'a révélé à aucune autre nation. Et ce n'est qu'à ce peuple qu'il s'était choisi, qu'il révéla la vérité et les diverses lois qui définissent exactement ce que le caractère humain doit être. Dieu ne leur offrit pas la vie éternelle à cette époque-là. Ils avaient une prêtrise qui, par certains rites, les poussait d'année en année à regarder vers l'avenir, vers un sacrifice à venir qui s'accomplirait au moment de la Pâque, celui du Christ. Le tabernacle, construction temporaire, devait leur montrer que Dieu ne vivrait pas toujours au milieu d'eux, mais qu'il viendrait un jour en eux. Cette nation devait vivre sous le gouvernement de Dieu, mais elle allait s'en écarter de temps en temps et y revenir, comme le conte le livre des Juges. L'histoire de l'Ancien Testament, ou Ancienne Alliance, nous raconte qu'à l'époque de Salomon, il y eut une division, une rébellion et en fin de compte, seule la maison de Juda préserva la Bible, les écrits de l'époque, ce que Jésus-Christ appela la loi, les prophètes et les psaumes. Ce sont donc les Juifs qui ont préservé l'Ancien Testament. Et nous en arrivons ainsi à l'époque de Jésus qui est l'Éternel, le Yahvé de l'Ancienne Alliance, qui vint au monde par Marie à l'aide d'un miracle. Ce Jésus avait été le Créateur de l'univers. C'est lui qui exécuta la volonté du Très-Haut, de celui que nous appelons maintenant Dieu le Père, et Jésus, nous l'appelons son Fils. Jésus est né dans la maison de Juda, non dans la maison de Lévi, qui lui était cependant associé. Ainsi donc, Jésus n'était pas un prêtre parmi les hommes, il vint pour définir le caractère de Dieu. Alors qu'il était sur cette terre, il amplifia, il apporta une nouvelle dimension au commandement, c'est en fait le Nouveau Testament. La différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament est très simple. La plupart des gens croient que l'Ancien Testament était erroné et qu'il devait être corrigé par le Nouveau Testament. Ce n'est absolument pas le cas. Mais c'est parce qu'ils croient cela qu'ils substituent l'un à l'autre. Jésus a confirmé que la loi rappelée au Sinaï restait telle quelle, qu'il n'en disparaîtrait pas un iota ou un seul trait de lettre. Lorsque celui qui est chrétien aux yeux de Dieu, celui qui a reçu le Saint-Esprit, examine la loi, il ne la voit pas comme le peuple d'Israël la voyait au mont Sinaï, car il a le Saint-Esprit en lui, alors que ce n'était pas le cas pour le peuple d'Israël. Celui qui a le Saint-Esprit de Dieu en lui, lorsqu'il lit le commandement qui déclare « tu ne tueras point », sait qu'il ordonne aussi de ne pas haïr. Il y a des gens qui haïssent et qui pensent observer la loi parce qu'ils ne tuent pas. C'est une grave erreur. Jésus a déclaré que celui qui se met en colère contre son frère se met automatiquement sous la condamnation de la loi. Jésus nous demande d'examiner les commandements, non en les changeant, mais en les comprenant mieux que la nation physique d'Israël n'avait jamais pu le faire. Le véritable chrétien n'apprend donc pas seulement à ne pas tuer son prochain, il apprend en plus à n'avoir aucune animosité envers les autres. Il apprend à ne pas commettre l'adultère, mais aussi à ne pas convoiter. Après avoir défini le caractère humain, tel qu'il doit être, Jésus-Christ est mort. Il est devenu souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Ceci signifie que, contrairement à ce que faisaient Aaron et ses descendants, qui offraient des sacrifices chaque jour, Jésus s'est offert une seule fois, afin de payer l'amende des péchés pour tous. Comme l'apôtre Paul l'écrit, tous ces sacrifices ne pouvaient rendre personne parfait, car il s'agissait du sang d'animaux, tandis que Jésus-Christ s'est offert lui-même une fois pour toutes. Jésus est mort. Il est resté 3 jours et 3 nuits dans le tombeau comme il l'avait dit. Ensuite, il est monté vers son Père, et son sacrifice fut accepté comme étant le sacrifice parfait. Il n'a donc plus besoin de renouveler son sacrifice, que ce soit sur la croix ou sous toute autre forme symbolique que l'on retrouve dans certaines églises. S'étant offert une fois pour toutes, il est assis désormais à la droite du Père. Il a bâti son Église en amenant à la conversion un certain nombre de personnes qui l'a conduite à la repentance et qui ont reçu le Saint-Esprit de Dieu. Il s'agit de tous ceux qui, depuis plus de 19 siècles, ont recherché le but même de la vie et ont décidé de se former un caractère avec l'aide de Dieu, en tendant leurs efforts vers la perfection, en se soumettant à la volonté de Dieu, souhaitant vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ces personnes se sont repenties d'avoir vécu selon une voie opposée à celle de Dieu. Ce sont ceux qui ont voulu et qui veulent encore marcher aujourd'hui selon la loi de Dieu et ses commandements. Tandis que la véritable Église bâtie par le Christ était persécutée, de grandes religions affirmèrent être chrétiennes. Certaines portaient le nom d'un homme, d'autres le nom du Christ. Toutes prirent part aux guerres, car les nations croient que le chrétien doit aller à la guerre. C'est ce qui s'est passé au cours des siècles, et même au cours des 2 guerres mondiales, des Allemands chrétiens se battaient contre des Français, des Anglais et des Belges qui eux aussi se disaient chrétiens. Tous ces gens étaient sous la séduction de Satan, qui est meurtrier. Ils n'observaient pas le commandement qui ordonne « tu ne tueras point ». De toute façon, ces chrétiens enseignaient à leurs enfants la haine de l'ennemi. Voilà la façon dont le monde se dit disciple du Christ. La véritable Église de Dieu ne comprend pas ceux qui, dans le monde, prétendent être chrétiens, mais elle est composée uniquement du petit troupeau, de ceux qui veulent se repentir de la voie qu'ils ont suivie, voie opposée à la voie divine, et qui veulent observer les commandements et les lois. Après leur baptême, ils reçoivent le Saint-Esprit par imposition des mains. Et c'est ce Saint-Esprit, cette puissance de Dieu qui fera de l'homme et de la femme un être immortel, parce que l'homme est né mortel. Il ne possède pas une âme immortelle. L'homme est une âme, et l'âme qui pèche est celle qui mourra. Puisque le Saint-Esprit est la pensée de Dieu, être engendré du Saint-Esprit, c'est recevoir une partie du caractère divin, ainsi que la potentialité de vie éternelle. L'apôtre Pierre écrit que, par le Saint-Esprit, le véritable chrétien devient participant de la nature divine, ce qui lui permettra d'hériter le royaume de Dieu, d'être semblable à Dieu, d'avoir son caractère, de régner avec le Christ pendant le millénaire, ainsi que pendant la période qui suivra et qui durera 100 ans de jubilé, lorsque reviendra à la vie physique toute l'humanité qui a vécu et qui est morte en restant dans l'ignorance de la vérité. C'est alors que toutes les générations du monde entier repenseront leur vie. Elles compareront 6000 années pendant lesquelles l'humanité vécut à sa façon avec les années qu'elles passeront alors sous le gouvernement de Dieu. Ensuite, les royaumes seront remis au Père et c'est à partir de ce moment-là que l'on pourra vraiment parler d'éternité, quand l'expérience humaine sera arrivée à terme et que l'on verra de nouveaux cieux et une nouvelle terre où le péché n'existera pas et où l'on pratiquera la loi de Dieu et ses commandements. Comme Paul nous en informe dans le second chapitre de son épître aux Hébreux, on verra alors que toute chose, l'univers entier, sera placé sous les pieds de ceux qui posséderont un caractère semblable à celui de Dieu. Dieu ne partagera pas l'univers avec ceux qu'il ne pourra pas diriger, avec ceux qui refuseront de le suivre. L'homme n'est pas un automate. Il est placé sur terre pour choisir la voie divine, choisir le caractère de Dieu, et lorsque cela sera, l'homme sera alors qualifié pour de grandes responsabilités dans le royaume de Dieu, dans l'univers entier. Voilà le but de la vie. Le caractère humain, qui est en l'homme, doit être éliminé et remplacé par le caractère de Dieu. Et cela est possible avec l'aide du Saint-Esprit. Parce qu'Abraham a obéi à la voix de Dieu et qu'il a observé ses ordres, ses commandements, ses statuts et ses lois, il fut appelé ami de Dieu. À son tour, en s'adressant à ses disciples, Jésus leur dit « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Et ce qu'il demande à celui et à celles qui veulent faire partie de ses disciples, c'est de marcher, de vivre comme il a vécu lui-même.